« Henri, dit la grenouille, tu m'as sauvé la vie et je veux te sauver ta vie à mon tour. Car si tu n'obéis pas au chat de la montagne, il te croquera pour son déjeuner. Tu ne peux pas attraper les poissons parce que le fossé est si profond qu'ils se réfugient tous au fond. Mais laisse-moi faire. Allume seulement ton feu pour les cuire, prépare tes tonneaux pour les saler, et je vais tous te les apporter. » En disant ces mots, la grenouille s'enfonça dans l'eau. Henri vit l'eau s'agiter et bouillonner, comme s'il y avait une grande bataille au fond du fossé. Au bout d'une minute, la grenouille reparut et sauta sur le bord, où elle déposa un superbe saumon, un grand poisson, qu'elle venait de pêcher avec ses pattes. À peine Henri avait-il eu le temps de saisir le saumon que la grenouille reparut avec une carpe. Elle continua ainsi pendant 60 jours. Henri cuisait les gros poissons, jetait les petits dans les tonneaux et les salait. Enfin, au bout de 2 mois, la grenouille sauta au bord du fossé et dit à Henri, « Il ne reste plus un seul poisson dans le fossé. Tu peux appeler le chat de la montagne. » Henri remercia vivement la grenouille qui lui tendit sa patte mouillée en signe d'amitié. Henri la serra amicalement et la grenouille disparut. Quand Henri eut rangé pendant 15 jours tous les poissons cuits et tous les tonneaux pleins de poissons salés, il appela le chat qui apparut tout de suite. « Voici, monseigneur, lui dit Henri, tous vos poissons cuits et salés. Veuillez tenir votre promesse et me faire passer à l'autre bord, s'il vous plaît. » Le chat examina les poissons et les tonneaux, goûta un poisson cuit et un poisson salé, se lécha les lèvres, sourit et dit à Henri, « Tu es un brave garçon. Je veux te récompenser de ta patience. Il ne sera pas dit que le chat de la montagne n'aura pas payé tes services. » En disant ces mots, le chat s'arracha une griffe et la donna à Henri en lui disant, « Quand tu seras malade ou que tu te sentiras vieillir, touche ton front avec cette griffe. Maladie, souffrance, vieillesse disparaîtront, et elle fera la même chose pour tous ceux que tu aimeras et qui t'aimeront. » Henri remercia vivement le chat, prit la précieuse griffe et voulut l'essayer immédiatement car il se sentait fatigué et un peu malade. À peine la griffe eut-elle touché son front qu'il se sentit frais et dispos comme s'il sortait de son lit. Le chat sourit et dit, « À présent, monte sur ma queue. » Henri obéit. À peine fut-il sur la queue du chat que cette queue s'allongea tellement, tellement qu'il se trouva de l'autre côté du fossé. Henri salua respectueusement le chat et courut vers le jardin de la plante de vie qui n'était plus qu'à 100 pas de lui. Il tremblait que quelque nouvel obstacle ne retardât sa marche. Mais il atteignit la barrière du jardin. Il chercha la porte, la trouva rapidement, car le jardin n'était pas grand. Mais il y avait une si grande quantité de plantes qui lui étaient inconnues, qu'il lui fut impossible de trouver la plante de vie qu'il cherchait. Il se souvint heureusement que la fée bienfaisante lui avait dit d'appeler le docteur qui cultivait ce jardin des fées. Il l'appela donc à haute voix. « Docteur, docteur !» À peine l'eut-il appelé qu'il entendit du bruit dans les plantes qui étaient près de lui et qu'il en vit sortir un petit bonhomme, pas plus haut qu'un parapluie. Il tenait un livre sous le bras, avait des lunettes sur son nez crochu et portait un grand manteau noir de docteur et un grand chapeau noir de docteur. Que cherchez-vous, petit ? Dit le docteur en se redressant. Et comment avez-vous pu arriver jusqu'ici ? Monsieur le docteur, je viens de la part de la fée bienfaisante vous demander la plante de vie pour guérir ma pauvre maman qui se meurt. Ceux qui viennent de la part de la fée bienfaisante, dit le petit docteur en saluant avec son chapeau, sont les bienvenus. Venez, mon petit ami, je vais vous donner la plante que vous cherchez. Il s'enfonça dans le jardin où Henri eut un peu de mal à le suivre parce que le docteur disparaissait entièrement sous les tiges qui étaient plus hautes que lui. Enfin, ils arrivèrent près d'une plante isolée. Le petit docteur tira une petite serpette de sa petite poche, en coupa une tige et la donna à Henri en lui disant « Voici, faites-en l'usage que vous a dit la fée, mais ne la laissez pas sortir de vos mains, car si vous la posez n'importe où, elle vous échappera sans que vous puissiez jamais la ravoir. » Henri voulut le remercier, mais le petit homme avait déjà disparu au milieu de ses herbes médicinales, et Henri se trouva seul. Comment ferai-je maintenant pour arriver vite à la maison? Si en descendant je rencontre les mêmes obstacles qu'en montant, je risque de perdre ma plante, ma chère plante de vie qui doit rendre la vie à ma pauvre maman. Il se rappela heureusement le bâton que lui avait donné le loup. Voyons, dit-il, s'il a vraiment le pouvoir de me transporter dans ma maison. En disant ces mots, Henri se mit à cheval sur le bâton en souhaitant être chez lui. Au même moment, il se sentit enlevé dans les airs, qu'il fendit avec la rapidité de l'éclair et se trouva près du lit de sa maman. Il se précipita sur elle et l'embrassa de tout son cœur, mais elle ne l'entendait pas. Elle était trop malade. Henri ne perdit pas de temps. Il pressa la plante de vie sur les lèvres de sa maman, qui au même instant ouvrit les yeux et jeta ses bras autour du cou d'Henri en s'écriant « Mon enfant, mon cher Henri, j'ai été bien malade. Je me sens guéri à présent. J'ai faim. » Puis le regardant avec étonnement, « Comme tu es grandi, mon cher enfant, qu'est-ce donc ? Comment as-tu pu grandir ainsi en quelques jours ?» C'est qu'Henri avait véritablement grandi. Il était plus grand de toute une terre, car il y avait plus de 2 ans qu'il était parti. Il avait maintenant près de 10 ans. Avant qu'il eût eu le temps de répondre, la fenêtre s'ouvrit et la fée bienfaisante parut. Elle embrassa Henri et, s'approchant du lit de la maman, lui raconta tout ce que le petit Henri, le bon petit Henri, avait fait pour la sauver. Les dangers qu'il avait courus, les fatigues qu'il avait endurées, le courage, la patience, la bonté qu'il avait montrée. Henri rougissait de s'entendre ainsi félicité par la fée. La maman serrait son petit Henri contre son cœur et n'arrêtait pas de l'embrasser. Après les premiers moments de bonheur, la fée dit « Maintenant, Henri, tu peux te servir des cadeaux du petit vieillard et du géant de la montagne. » Henri tira de sa poche sa tabatière et l'ouvrit. Aussitôt, il en sortit une si grande foule de petits ouvriers, pas plus grands que des abeilles, que la chambre en fut remplie. Ils se mirent à travailler avec une telle adresse et une telle rapidité qu'en un quart d'heure seulement, ils bâtirent et meublèrent une jolie maison qui se trouva au milieu du grand jardin, adossée à un bois et à une belle prairie. Tout cela est à toi, mon brave Henri, dit la fée. Le chardon du géant te procurera ce qui te manque. Le bâton du loup te transportera où tu voudras, et la griffe du chat te conservera la santé et la jeunesse à toi et à ta maman. Adieu, Henri, vis heureux, et n'oublie pas que la vertu et l'amour de sa maman sont toujours récompensés. Henri se jeta aux genoux de la fée. Elle lui donna sa main à baiser, lui sourit et disparut. La maman d'Henri aurait bien voulu se lever pour voir et admirer sa nouvelle maison, son jardin, son bois, sa prairie, mais elle n'avait pas de robe. Pendant sa maladie, elle avait fait vendre par Henri tout ce qu'elle possédait pour qu'Henri eût au moins à manger du pain. « Hélas, mon enfant, je ne peux pas me lever, » dit-elle. « Je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de souliers. »« Tu vas avoir tout cela, ma chère maman, » s'écria Henri. Et tirant son chardon de sa poche, il le sentit en désirant des robes, du linge, des chaussures pour sa maman, pour lui-même, et aussi du linge, des serviettes, des draps pour la maison. Au même instant, les armoires se trouvèrent pleines de linge, la maman se trouva habillée d'une bonne robe de laine et Henri d'un vêtement complet de drap bleu. Il avait de bons souliers et sa maman aussi. Tous les deux poussèrent un cri de joie. La maman sauta de son lit pour parcourir avec Henri toute la maison. Rien n'y manquait. Partout des meubles confortables et simples. La cuisine était garnie de casseroles et de marmites, mais il n'y avait rien dedans. Henri sentit son charbon en désirant avoir un bon dîner tout servi. Une table servie et couverte d'une bonne soupe bien fumante, d'un bon gigot, d'un poulet rôti, d'une bonne salade et d'un excellent dessert se plaça immédiatement devant eux. Ils se mirent à table et mangèrent avec l'appétit de gens qui n'avaient pas mangé depuis près de 3 ans. La soupe fut bien vite avalée. Le gigot y passa tout entier, puis le poulet, puis la salade et enfin le dessert. Quand ils eurent fini, la maman, aidée d'Henri, ôta le couvert, lava et rangea la vaisselle, nettoya la cuisine. Puis ils firent les lits avec les draps qu'ils trouvèrent dans les armoires et se couchèrent en remerciant Dieu et la fée bienfaisante. La maman y ajouta un remerciement supplémentaire pour son fils, le bon petit Henri. Ils vécurent ainsi très heureux, sans jamais manquer de rien grâce au chardon, sans jamais souffrir ni vieillir grâce à la griffe du chat, et sans jamais se servir du bâton, car ils étaient heureux dans leur maison et ne désiraient pas se transporter ailleurs. Henri demanda seulement à son chardon 2 belles vaches, 2 bons chevaux et les choses nécessaires à la vie de chaque jour, mais sans jamais demander du superflu, des choses qui ne servent pas à grand-chose, soit en vêtements, soit en nourriture. Aussi conserva-t-il son chardon tant qu'il vécut. On croit même que lui et sa maman ont été rendus immortels par la reine des fées qui les a transportés dans son palais où ils sont encore et qu'ils ne mourront jamais. Voici maintenant un conte de Grimm qui s'appelle « Les cadeaux des lutins ». Il était une fois un orfèvre, c'est-à-dire celui qui fait des assiettes, des plats et des timbales en or ou en argent, et un tailleur qui fait des costumes, qui voyageaient ensemble. Et voilà qu'un soir, et même une nuit, la nuit était tombée, la lune se lève, qu'est-ce qu'ils aperçoivent ? Des petits nains, des lutins, qui dansaient et qui chantaient dans une prairie. Les petits nains leur font signe, l'orfèvre et le tailleur s'approchent d'eux et se mettent à danser et à chanter avec eux. Mais les lutins chantaient dans une langue que ne comprennent pas les hommes. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient ? Le chef des lutins, qui était plus grand que les autres, ce qui ne fait pas encore très grand, parce que ces lutins, comme tu le sais, ce sont des petits nains, qui prend deux grands couteaux et se met à les aiguiser l'un contre l'autre. L'orfèvre et le tailleur étaient inquiets. Les nains se mettent à tenir solidement les deux compagnons. Le chef des lutins s'approche d'eux avec ses grands couteaux et leur coupe les cheveux, leur tond la moustache et leur rase la barbe. Ils n'avaient plus un poil sur la tête. Ensuite, les nains les relâchent et le chef des nains leur fait signe de remplir leurs poches de charbon dont il y avait un gros tas près d'eux. Ils remplissent leurs poches sans bien comprendre à quoi cela pourra leur servir et s'en vont. Et au son d'une cloche d'une église, tous les lutins disparaissent. L'orfèvre et le tailleur arrivent dans une auberge. Comme ils n'étaient pas bien riches, ils couchent sur la paille à l'écurie. À leur réveil, oh, qu'on a mal dormi! Ils se tâtent la tête, mais mes cheveux ont repoussé, ma moustache aussi, ma barbe aussi. Ah bah tant mieux, mais j'ai mal dormi. Pourquoi est-ce que j'ai mal dormi? Ah oui, c'est mes poches qui sont pleines de charbon, je vais les vider. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leurs poches? Les morceaux de charbon s'étaient transformés en morceaux d'or. Ils étaient devenus très riches. Le tailleur dit, oh, ben je ne vais plus travailler, je vais m'installer, avec cet or, je vais m'acheter une petite maison et je vivrai tranquillement, veux-tu venir avec moi? Non, 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 dit l'orfèvre. Moi, je veux beaucoup plus d'or. Je vais retourner voir les lutins et j'emporte un grand sac. Et le voilà, l'orfèvre, qui repart le soir pour revoir les lutins. Il danse avec les lutins, il chante en même temps qu'eux. Le chef des lutins aiguise ses couteaux, mais l'orfèvre n'avait plus peur. Le chef des lutins lui coupe les cheveux, lui coupe sa moustache, lui rase sa barbe et lui fait signe de prendre du charbon. Oh, c'était pas la peine de faire signe deux fois. L'orfèvre remplit ses poches, remplit le sac bourré à craquer et repart avec un sac qui était lourd, mais lourd, mais lourd. Il se couche dans la meilleure chambre de l'auberge. Le lendemain matin, il se réveille. Il va se regarder dans la glace. Mais mes cheveux n'ont pas repoussé. Mais ma moustache n'a pas repoussé. Mais mon menton, ma barbe n'a pas repoussé non plus. Mais qu'est-ce que j'ai devant sur le ventre? Une bosse. Ah ben ça alors! Enfin, je vais aller voir mon or. Il fouille dans ses poches, mais il sort les mains toutes noires. C'est toujours du charbon. Il va regarder dans son sac, un gros sac de charbon. Heureusement, se dit l'orfèvre, j'ai l'or que j'avais eu hier. Hélas, l'or qu'il avait eu hier, il a été trop avare, trop désireux d'en gagner plus, cet or est redevenu du charbon. Et voilà cet orfèvre qui est devenu tout pauvre, ses cheveux pour avoir voulu devenir trop riche, ses cheveux, sa barbe, sa moustache n'ont jamais repoussé. Il était horrible avec cette grosse bosse sur le ventre qui le gênait beaucoup. Heureusement, le tailleur, qui était un brave garçon, l'a pris chez lui et il a été finalement assez heureux avec le tailleur, mais lui était obligé de continuer à travailler parce que c'était le tailleur qui était riche. Le tailleur l'abritait, mais ne pouvait quand même pas lui donner à manger tous les jours parce qu'il n'était pas assez riche pour ça. Un autre conte, l'histoire du docteur Je sais tout. Il était une fois un paysan dont le nom était Crabe. Il s'appelait Monsieur Crabe, comme d'autres s'appellent Monsieur Durand. Ce paysan avait été coupé du bois dans la forêt et il était allé le vendre à la ville. Et « J'ai du bois à vendre, qui veut des bûches? Qui veut des bûches pour son feu? Par ici !» crie un docteur. « Venez, j'ai besoin de bois, justement, je n'en ai presque plus chez moi. » Il livre le bois au docteur. « Eh bien, mets donc ce bois dans le bûcher, et ensuite tu viendras te faire payer, je serai à table dans ma salle à manger. » Le paysan range le bois dans le bûcher, et ensuite il va se faire payer. Le docteur était à table. Oh, une belle salle à manger, une belle table, de beaux meubles, une belle nappe, et là-dessus des belles assiettes, et surtout des bonnes choses à manger, et du bon vin à boire. Ah, le paysan qui s'appelait Crabe regardait tout ça, et disait, eh bien, et ça sent bon. Dites donc, docteur, c'est un bon métier des docteurs. Oui, dit l'autre, je n'ai pas à me plaindre, je gagne bien de l'argent. Je m'achète tout ce que je veux. Ah, oui, mais il doit falloir être savant pour être docteur. Il faut faire des grandes études. Le docteur voulait s'amuser et se moquer un peu du paysan qui s'appelait Crabe. Oh non, pas tellement, dit le docteur. Tu sais, l'important pour un docteur, c'est le costume. Tu t'achètes une grande robe noire. À cette époque-là, les docteurs avaient une grande robe noire, un grand chapeau pointu. À cette époque-là, les docteurs avaient un chapeau pointu et des lunettes pour faire sérieux. Et puis, tu mets au-dessus de ta porte de ta maison un écriteau, ici le docteur je sais tout. Ah oui, dit le paysan, mais il faut quand même avoir fait des études dans des livres, et moi je ne sais pas lire. Oh, le docteur dit, c'est pas beaucoup la peine, il suffit que tu t'achètes un alphabet. Tu sais ce que c'est qu'un alphabet? Un livre d'alphabet, c'est un livre où il y a une page par lettre. Et à côté de chaque lettre, il y a le dessin d'un animal dont le nom commence par cette lettre. Pour A, il y a un âne, pour B, il y a un bélier, pour C, il y a un canard, pour D, il y a un dromadaire, etc., etc. Ah, dit le paysan, mais oui, ça suffit. Et voilà, le paysan qui prend l'argent qu'il avait eu de la vente de ses bûches, qui va s'acheter une robe de docteur, un chapeau de docteur, des lunettes de docteur et un alphabet. Il fait peindre au-dessus de sa porte, dans son village, un grand écriteau, ici le docteur je sais tout. Et voilà que le seigneur du village entend parler de ce docteur je sais tout. Or ce seigneur, on lui avait volé une grosse somme d'argent. Il va chez le paysan et lui dit « Bonjour docteur, je sais tout. Je voudrais que vous me retrouviez la somme d'argent qui m'a été volée. Dit le paysan, ça je pourrais, mais il faut d'abord que vous m'invitiez avec ma femme qui s'appelle la grosse Margot. Certainement, dit le seigneur. Et voilà le paysan et la grosse Margot qui sont à table chez le seigneur. Or, l'argent avait été volé par les serviteurs du seigneur. Voilà que le premier serviteur apporte le premier plat. Le paysan pousse le coude de la grosse Margot et dit « Voilà le premier !» Il voulait dire « le premier plat ». Mais le serviteur comprend « Voilà le premier voleur !» Il se dit « Mon Dieu, ce docteur je sais tout est vraiment très malin !» Le deuxième serviteur arrive avec le deuxième plat et le paysan se penche vers sa femme et lui dit « Margot, tu vois, celui-là, c'est le deuxième. » Le deuxième serviteur rentre dans la cuisine et dit aux autres « Il sait vraiment tout. » Le troisième serviteur arrive avec le troisième plat. « Voilà le troisième, » dit le paysan. Le serviteur rentre affolé. Et le quatrième serviteur arrive portant un plat avec un couvercle en argent. On ne pouvait pas voir ce que c'était. Le seigneur dit, tiens, ben vous qui savez tout, vous pourriez peut-être deviner ce qu'il y a dans ce plat. Le paysan se gratte la tête et puis dit, tu te rappelles qu'il s'appelait Crabe. Aïe, 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 pauvre Crabe, cette fois tu es fichu. Le seigneur fait enlever le couvercle et on voit dans le plat un énorme crabe. « Bravo !» dit le seigneur. « C'est formidable !» Et puis, le serviteur fait signe au paysan. Le paysan va à la cuisine. Les voleurs lui disent « Écoutez, vous savez tout. Nous allons vous rendre une partie de l'argent. L'autre, vous le donnerez au seigneur. Mais surtout, nous vous en supplions, ne dites pas que c'est nous les voleurs. Non, 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 dit le docteur, je sais tout, plutôt le paysan qui s'appelait Crabe. Et voilà que le docteur je sais tout passe dans le salon avec le seigneur et avec sa femme, la grosse Margot, pour le café. Le cinquième serviteur s'était caché dans une armoire pour écouter et savoir si le docteur je sais tout allait les dénoncer. Et le paysan dit, maintenant je vais vous dire où est votre trésor. Je vais regarder ça dans mon livre. C'est ça pour avoir l'air sérieux. Et il feuillette son livre et il cherchait le dromadaire. Parce que s'il trouvait que ça très amusant, une espèce de chameau avec une seule bosse. Il ne trouve pas, parce qu'il y avait deux pages collées, et il dit, oh, c'est ennuyeux, mais je sais qu'il est là, bien caché, et je le trouverai. Le cinquième voleur, caché dans l'armoire, se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et pour finir, le paysan dit, ça ne fait rien, j'ai pas besoin d'un livre, je vais vous montrer où est votre trésor. Il le montre au seigneur. Le seigneur a été tellement content qu'il lui a donné la moitié de ce que le paysan avait retrouvé et que les cinq voleurs lui ont encore donné beaucoup d'or pour le remercier de ne pas les avoir dénoncés.
Et comme ça, il est devenu très riche alors qu'il était avant très pauvre et qu'il restait toujours très ignorant. Fin de cette cassette unique.